Je voudrais remercier tous les participantes et participants, auditrices et auditeurs. Je crois que c'est ce n'est qu'un début. Continuons non pas le combat, mais le débat. Je précise immédiatement en tant qu'organisateur avec Angelica, je mettrai immédiatement tout ce colloque sur le web. Sous deux formes minimales, l'enregistrement de tout ce qui s'est passé aujourd'hui et les textes tels qu'ils nous sont donnés dans leur langue originale aujourd'hui. Et d'autre part, on essaiera le plus vite possible, sur deux textes réduits à 10 000 signes, de donner les traductions dans deux langues au moins, si possible trois, c'est-à-dire français et anglais et, si possible, allemand. Donc, pour les auteurs, ne regrettez pas de ne pas avoir pu dire tout ce que vous vouliez dire. Au moins, dans la version originale, vous faites ce que vous voulez, mais vous fournissez une version en 10 000 signes qui permet la traduction. Nous chercherons également un éditeur pour une revue papier, mais de toute façon, vous aurez ce site. Le site s'appelle lipietz.net, c'est donc extrêmement facile, c'est mon nom. Angélique Haber fera la même chose en allemand. Et... tu feras ça dans le site qui s'appelle.
Le site s'appelle Michel.
Tu fais ça sur le site planeteecologie.org.
Alors Athéna21.org.
D'accord. Alors c'est Athéna21.
Athéna21. On fera des liens de toute façon vers le. C'est pareil.
Voilà. Alors, s'il faut essayer de conclure au moins ce qui était dit dans ce débat et les trous qui sont apparus. D'abord, nous étions partis en tant qu'organisateurs sur un schéma assez simple. La crise écologique, les crises écologiques, soit du côté des ressources, sources en anglais, soit du côté des déchets, sink en anglais, provoquent des tensions. Ces tensions peuvent provoquer des guerres, dont on a dit, certains les ont qualifiées de guerres de survivance, et ces guerres, à leur tour, provoquent des dégâts sur l'environnement. La première partie, la première table ronde a porté sur le premier maillon de la chaîne qui va de crise à tension. Et la deuxième, sur la partie qui va de guerre à destruction de l'environnement. Alors, premièrement, sur la première partie. Alors, d'abord, ce n'est pas très nouveau, les guerres pour les ressources. On peut même dire qu'une grande partie des guerres ont été des guerres pour l'espace vital, Lebensraum, hein, qui est la définition même de l'écologie, hein, le Lebensraum. Encore récemment, toutes les guerres sur l'eau portent là-dessus. Il est connu que l'agriculture israélienne consomme, puisqu'on a fait quelqu'un est intervenu dans le débat pour dire que derrière les crises écologiques, il y a des problèmes agricoles, il y a des problèmes financiers. Effectivement, l'agriculture israélienne consomme à elle seule plus d'eau qu'il n'en existe. Qu'il n'en pleut annuellement sur la totalité de la Palestine et d'Israël, donc il y a forcément un problème. Mais on peut prendre l'exemple plus récent des réfugiés climatiques, puisque nous avions hier, dans ces mêmes lieux, un colloque sur les réfugiés du climat. J'ai été un peu étonné qu'on enseigne dans des universités belges que la dégradation du climat n'était pas un facteur de tension. Ou alors j'ai mal compris la différence entre catalyseur et déclencheur. Enfin, il est bien clair que nous avons déjà un pays de l'ONU qui a disparu et qui a dû négocier successivement avec la Nouvelle-Zélande, puis avec l'Australie. Non, pardon, avec l'Australie qui a refusé, puis avec la Nouvelle-Zélande, le fait de pouvoir immigrer en totalité dans ce pays qui n'était, puisque le territoire disparaissait sous les eaux. Il est évident que nous aurons dans le courant du siècle la disparition d'un tiers du Bangladesh sous les eaux, et vu le caractère extrêmement cordial des relations entre le Bangladesh et l'Inde, vous imaginez bien que l'émigration des habitants du Bangladesh concernés vers l'Inde ne se fera pas sans tension. En 1992, c'était d'ailleurs, on appelait ça, dans la préparation de la conférence de Rio, l'effet Gengis Khan. Ce qui est très méchant pour Gengis Khan, car les études ultérieures ont montré qu'il n'y avait pas de crise climatique particulière en Mongolie au moment de l'intervention des Mongols sur le reste de l'Eurasie. Enfin, bon, c'est un peu cette idée qu'une crise climatique peut provoquer des déplacements de population et donc des tensions. Cela dit, vous voyez bien qu'il y a une très grande modification qui était en train de s'introduire. La bataille pour le Lebensraum était une chose, que ce soit gagner de la terre, gagner de l'eau, gagner du pétrole. Les crises écologiques qu'on a maintenant sont plutôt des crises d'un nouveau type, comme la crise climatique, qui est qu'est-ce qu'on fait de nos déchets ? C'est-à-dire notre gaz carbonique est en train de perturber la vie de l'ensemble de la planète, pas seulement chez ceux qui produisent le gaz carbonique, mais ailleurs. Les crises, bon, on a cité le Sahel. Bon, là encore, on nous expliquait que dans certaines universités bruxelloises, on contestait l'influence du changement climatique sur le Sahel. Dans ma jeunesse, il existait un lac qui s'appelait le lac Tchad, qui était très très grand. Maintenant, le lac Tchad n'existe presque plus. Il est difficile de dire que ça n'a aucun effet sur la situation entre Touareg et autres du Tchad et du Darfour. La grande nouveauté, c'est que l'environnement, ce n'est plus de l'espace vital, c'est aussi de l'espace pour les déchets. Alors, on en a parlé, notamment, y compris à propos de l'armement. Alors, on a vu à l'occasion du débat que nous avons sauté un maillon, clairement, celle entre tension et guerre. C'est évident que les Verts se battent pour que les tensions ne débouchent pas sur la guerre. Ça a été dit à plusieurs reprises au cours de la première conférence. Ce qui fait la marque de fabrique de l'Union européenne, c'est qu'elle essaie que les tensions se réduisent sans guerre, avec plus de réglementation. L'Europe est kantienne. Les États-Unis sont obsiens, suivant la formule d'un néoconservateur américain, notre ami Seminatore a rappelé quand même l'enseignement des écoles réalistes. On peut vouloir finir, régler les tensions autrement que par la guerre, mais on n'est pas sûr d'y arriver. Hein. Donc, on peut dire que nous sommes contre la guerre et contre les armements. N'empêche qu'il y a quand même des guerres et on a quand même des armements. Donc, c'est pour ça qu'a lieu la deuxième partie de la discussion. Et on peut trouver qu'effectivement, elle banalise la guerre et les armements. Mais enfin, il y en a. Donc ça, on ne peut pas se contenter de dire qu'on est contre. Hein. Bon, alors sur cette deuxième partie, la limitation de la guerre comme péril pour l'environnement. Alors je crois que c'est un problème, avec tous les problèmes moraux de la guerre, hein, et la guerre de survivance que ça soulève, à partir du moment où on admet qu'il y ait de la guerre, soit par réalisme, soit même par idéalisme, après tout je suis, j'existe parce que mon père a été sorti du camp de Drancy par les armées de la libération, il y a de l'armement. Il y a de l'armement et il y a une extension des lois de la guerre jusqu'à l'environnement. Alors ça, c'est un phénomène extrêmement nouveau. On peut très bien considérer d'ailleurs que l'écologie politique n'est rien d'autre que l'extension des lois, enfin du principe de fraternité, du « tu ne tueras point », etc., jusqu'à l'environnement, considéré comme métaphore ou maillon manquant vers les générations futures ou vers les générations présentes mais distantes, hein, et bien de la même façon qu'on a commencé avec les conventions de Genève et la Croix-Rouge en soignant les blessés, puis en s'occupant de tous les prisonniers de guerre, puis en s'occupant de tous les soldats, puis en s'occupant des civils qui existaient à côté des soldats pendant les guerres, hein, on a étendu petit à petit le champ des conventions de Genève, on arrive à une nouvelle étape des conventions de Genève, qui sont la défense de l'environnement en tant que tel. On peut considérer que c'est une évolution très intéressante. Alors, il faut bien voir comment ça s'est passé. pour la période récente et où on en est. Après, donc, s'être occupé des blessés, puis des prisonniers de guerre, on a commencé à s'occuper des soldats. Ça a été la première convention de Genève des années 1920, avec les armes conventionnelles B et C, où on les a interdites, bactériologiques et chimiques. Puis, après la Deuxième Guerre mondiale, l'apparition de la prohibition, enfin les tentatives de prohibition ou de limitation des armes atomiques, avec le traité de non-prolifération, qui n'a pas été appliqué dans son volet destruction pour ceux qui avaient déjà l'arme atomique. Bon, et puis on a eu ensuite l'apparition de limitations sur les armes conventionnelles dites inhumaines, qui sont en fait deux protocoles, les mines antipersonnelles, PET, c'est-à-dire passives, et les mines à fragmentation, conférence de Dublin, qui a eu lieu entre le moment où nous avons convoqué cette conférence et aujourd'hui, puisque la conférence de Dublin a eu lieu il y a 15 jours, je crois. Bon, on a signé, on n'a pas encore ratifié. Et puis, vous avez cette fameuse N-MOD qui traîne depuis 1976 et dont plus personne ne parle. Et pour vous donner une idée à quel point plus personne n'en parle, je vous rappelle que l'ENMOD disait « Chaque État parti à la Convention blablabla s'engage à ne plus développer de techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus durables et graves en tant que moyen de causer des destructions des dommages sur l'environnement. » Et l'article 2 précisait qu'il s'agissait de manipulation délibérée des processus naturels, la dynamique, la composition, la structure de la Terre, y compris ses biotes, c'est le nom d'époque des biotopes, sa lithosphère, son hydrosphère, c'est-à-dire l'eau, et son atmosphère ou l'espace extra-atmosphérique. On va donner l'exemple de Hard. Mais quand, la semaine dernière, nous avons voté sur l'uranium appauvri, nous n'avons même pas cité cette pauvre convention. Nous avons cité un texte onusien plus récent qui disait exactement la même chose. Vu la déclaration du 6 novembre 2002 du secrétaire général des Nations Unies à l'occasion de la journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés, autrement dit, on avait complètement oublié qu'il y avait une mode pour dire prévention la dispersion d'uranium appauvri, c'est-à-dire non pas tant radioactif que métal lourd, dans le terrain. Autrement dit, N-MOD est une convention en voie de disparition, disons-le. C'est-à-dire que même dans les cas des firmes des mines antipersonnelles à fragmentation ou de l'uranium appauvri, qui ont toutes pour caractéristique de rendre l'environnement invivable, y compris pour le vainqueur, c'est ça un peu l'aspect nouveau de la guerre. La guerre a toujours considéré consistait à ravager le territoire de l'adversaire pour lui prendre des biens, mais pour le piller, comme on dit. Mais pour une fois, le ravagement est tel que le vainqueur n'ose même plus s'aventurer dans le terrain de l'adversaire, puisque supposé qu'on bombarde les environs d'un trésor avec des mines à fragmentation et des mines antipersonnelles, on n'oserait même plus aller chercher le trésor, à moins d'être... Harrison Ford. Bien. On a un vrai déperdissement d'Enmod, alors même que nous sommes en train de voter ou de signer ce qui pourrait être des protocoles d'Enmod. Donc voici un premier objectif, je crois, qui sort de cette journée, revivifiance d'Enmod, avec... d'abord, la signer. Il y a 6 pays, je les ai comptés hier, de l'Union européenne qui n'ont même pas ratifié Enmod, alors que les États-Unis l'ont ratifié. Bon, c'est pas une preuve, vous me direz. On pourrait essayer de la réarticuler, de la relancer, de l'adapter aux armes dites inhumaines. On pourrait mettre en pratique le TNP, finalement. Enfin, il y a toute une série de rattrapages que l'on peut mettre en place. Mais du côté de la prévention... Je crois qu'il y a tout un problème et qui a été évoqué sur les armements qui font du mal, même si on s'en serve pas. Une fois quand une bombe a explosé, ma foi, on en est bien débarrassé. Le problème, on l'a dit, les bombes qui n'ont pas explosé, les porte-avions qui n'ont pas coulé, etc. Dire aujourd'hui, quand on dépense de l'argent, alors bon, quand on a les moyens de dépenser de l'argent, pour faire des sous-marins nucléaires et pour faire des porte-avions nucléaires, qu'un jour il faudra désarmer ces porte-avions nucléaires et ces bombes qui n'auront pas servi, il faudra les détruire, je crois que c'est un point extrêmement important. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée, c'est à cause de l'excès de la régulation marchande. Non, je dirais plutôt c'est à cause de l'excès de la régulation bureaucratique. S'il avait fallu faire une s'il y avait une régulation marchande sur les porte-avions français, on aurait fait des nucléaires classiques, des porte-avions classiques, pas nucléaires, évidemment. Il faut vraiment que l'administration s'en mêle pour qu'ils soient nucléaires. Ça n'avance absolument rien quant à l'autonomie. Ces porte-avions ne fonctionnent jamais en période de guerre, on s'en est aperçu.
Et ça fait 30% du prix.
Et ça fait 30% du prix, et on n'a pas compté le démantèlement.
Voilà.
Bon. Le Foch et le Clémenceau sont couverts d'amiante. On savait déjà à l'époque que l'amiante était dangereux, puisqu'on le sait depuis 1938. On a sagement vendu le Foch au Brésil pour qu'il s'en occupe. Le Clémenceau connaît un calvaire, comment tu l'appelles, le Q790 continue à poursuivre son petit bonhomme de chemin avec son amiante et nous ne savons pas quoi en faire. Donc je crois qu'un deuxième axe, là, c'est prévention environnementale, en quelque sorte, du matériel militaire. Troisièmement, il y a tout le problème de la prévention, du caractère générateur de crise que représente la dégradation de l'environnement, prévention des crises écologiques, mais ça, le sujet est tellement vaste qu'on ne va pas en parler spécifiquement, prévention des armes non biodégradables, c'est-à-dire celles qui font du mal, même si on ne s'en sert pas, et bien entendu, ça ne nous empêche pas de lutter pour le désarmement, c'est-à-dire les armes qui font du mal, justement parce qu'on s'en sert, mais ce n'était pas le sujet de la journée. Je vous remercie tous et à bientôt pour la suite de nos débats.
Merci.